Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, Margot Agnès, aujourd'hui Alexandre Cagzan aux manettes techniques de cette émission et à la une de l'émission du scandale. Alors si vous aimez les scandales, vous allez être vraiment satisfait parce que, mais nous n'allons pas évidemment vous parler de scandales tout à fait récents, il y en a plein les journaux de toute façon, nous allons nous pencher sur des scandales un peu plus anciens avec mon invité Jean Garrig. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. En fait, je suis tombé sur un de vos livres qui s'intitule « Les scandales de la République de Panama à l'affaire Clearstream ». Il n'y a pas Cahuzac parce que vous l'avez écrit avant l'affaire Cahuzac. Et c'est un livre qu'on peut trouver actuellement en poche aux éditions du Nouveau Monde.
Il y a une nouvelle édition avec l'affaire Cahuzac.
Formidable. Bon, je vois que les historiens sont presque aussi rapides que les journalistes là, parce que vous êtes professeur d'histoire, vous êtes professeur à Sciences Po Paris, vous êtes professeur à l'université d'Orléans et vous êtes un spécialiste d'histoire contemporaine. Alors, avant de parler de l'affaire que nous allons décrypter ensemble, que vous allez nous éclairer sur ses tenants, ses aboutissants et peut-être une certaine responsabilité dont on parlera dans d'autres événements très importants. Ces scandales s'enchaînent en fait depuis que la République existe.
Ben oui, il y a une sorte de cycle du scandale. On a l'impression d'ailleurs qu'aujourd'hui ça s'accélère parce que c'est la médiatisation qui les met sur le devant de la scène. Mais il y a toujours eu des scandales depuis, je dirais même depuis les débuts de la République, depuis la Révolution française.
Oui, alors ces scandales, évidemment, il y a du trafic d'influence, il y a de la corruption, il y a de l'abus de pouvoir. Ça n'a pas changé finalement, ça n'a pas d'âge. Hein.
Ça n'a pas d'âge, la base, c'est ça, c'est de la corruption. Mirabeau était corrompu par les Anglais pendant la Révolution française. Sous la monarchie de Juillet, on a eu des affaires de trafic d'influence. Sous la Troisième République, n'en parlons pas, ça a toujours existé.
Alors, beaucoup des scandales que vous racontez dans votre livre ont donné lieu à des débats parlementaires. Certains gouvernements sont même tombés à cause de ces scandales. Quel est le rôle de la presse? Parce qu'on a l'impression qu'au fur et à mesure que la presse se développe et que les lecteurs deviennent de plus en plus nombreux, les scandales fleurissent encore plus qu'avant.
Oui, la presse a toujours joué un rôle majeur en réalité. Et je parlais de la Révolution française ou de la monarchie de Juillet. Dès cette époque, la presse joue un très très grand rôle pour informer tout simplement. Alors, ce n'est pas une presse d'investigation. La presse ne devient véritablement une presse d'investigation digne de ce nom, j'allais dire, que très récemment, depuis une trentaine d'années. Et ça explique aussi d'ailleurs que les scandales se soient multipliés.
Alors, cette année, évidemment, ça n'est un mystère pour personne. On célèbre le 100e anniversaire de la guerre de 14 et on va parler d'un scandale énorme dont toute la France a parlé quelques mois avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. C'est l'assassinat d'un directeur de journal par la femme d'un ministre en exercice. On ne peut pas rêver mieux comme scandale.
On ne peut pas rêver mieux. On a une des personnalités les plus importantes de la Troisième République, qui est Joseph Caillaux, qui était à plusieurs reprises ministre, président du Conseil, qui est en passe de remporter les élections d'avril 1914, de prendre en main la France. Et puis voilà, patatrac, sa femme qui tue le directeur du journal Le Figaro.
Alors, le mobile, on va en parler beaucoup ensemble. Il y a une blessure terrible de cette femme, en tout cas officiellement. Gaston Calmette et ses journalistes, mais Gaston Calmette lui-même a pris la plume et depuis des semaines et des semaines, tous les jours, en ouvrant Le Figaro, on révèle de nouvelles, alors sinon malversations, enfin de nouvelles informations négatives, on va dire, sur Joseph Caillaux. L'histoire que je vais donc vous raconter maintenant, je vais vous raconter l'histoire du fait divers avant d'aller plus loin avec Jean Garrig, montre en tout cas, à mon avis, que le métier de journaliste était déjà très dangereux à l'époque. Nous sommes à Paris, le lundi 16 mars 1914, donc, au 26 de la rue Drouot, dans le 9e arrondissement. C'est là, à quelques encablures des grands boulevards, que se trouve à l'époque le siège du Figaro. Dans l'antichambre du bureau du directeur du journal, Gaston Calmette, une femme élégante, mais une femme qui a l'air très déterminée. Elle fait les 100 pas. Henriette Caillot, effectivement, est très en colère. Elle ne supporte plus, comme on l'a dit, la campagne d'attaques personnelles et insidieuses répétées dans chacune des éditions du journal, à longueur de colonne contre son mari. Presque chaque jour, des éditoriaux d'une rare violence prennent pour cible Joseph Caillaux, qui est l'actuel ministre des Finances, un des chefs importants du Parti radical. Chaque jour, Henriette Caillaux sait qu'elle va découvrir un nouvel épisode de ce feuilleton nauséabond. Chaque jour, elle pense aux dizaines de milliers de lecteurs du Figaro qui se régalent des turpitudes supposées de son mari. Bien sûr, Joseph Caillaux n'est pas un saint, mais elle l'aime passionnément, et elle trouve cette campagne de presse ignoble. Ce matin-là, vers 11h30, après avoir pris connaissance du Figaro du jour, Caillaux était rentré chez lui foudrage. Il avait dit à sa femme « Si Calmette continue, je vais lui casser la gueule ». Henriette ne réagit pas. Simplement, elle quitte l'appartement pour aller faire des courses, dit-elle. En fait de course, elle se rend chez le célèbre armurier Gastine et Renette. Elle veut acheter un revolver. Elle se laisse finalement conseiller un pistolet automatique, plus facile, dit le vendeur, à manier par une femme qu'un revolver. Et comme elle ne s'est jamais servie d'une arme à feu, le vendeur lui propose de l'essayer aussitôt dans le stand de tir qui se trouve au sous-sol du magasin. Henriette Caillaux va placer 3 balles sur 5 dans la cible. Et puis, elle se fait aussi expliquer comment on manie la culasse de l'arme pour faire monter une autre balle dans le canon. Elle retrouve ensuite sa voiture, elle se fait conduire chez elle, où elle se change avant de repartir. Et elle a laissé une courte lettre, bien en évidence, pour que son mari, Joseph, ne puisse pas la manquer à son retour. Il est écrit sur cette lettre qu'elle ne supporte plus les attaques dont son mari est l'objet, qu'il n'y a pas de justice, qu'elle a donc décidé d'agir de sa propre initiative. Une lettre qui se termine par ces mots « Ma patience est finie ». Il est maintenant 17h15. Nous sommes donc toujours ce 16 mars 1914. La lourde porte du bureau du directeur du Figaro vient de s'ouvrir sur le petit salon où attend sa visiteuse. Gaston Calmette, il faut le dire, est à la fois étonné mais vaguement inquiet depuis que sa secrétaire lui a révélé que la femme qu'il attend depuis près d'une heure se nomme Henriette Caillaux. Alors il la fait entrer dans son bureau et il lui demande ce qu'il peut faire pour elle. Henriette ne répond pas. Calmement, elle sort de son élégant manchon le pistolet automatique qu'elle vient d'acheter et elle tire. À 6 reprises. Elle vide en fait son chargeur sur le directeur du Figaro qui se trouve tout près d'elle. Les premières balles se sont fichées dans les rayons de la bibliothèque, mais les 4 suivantes atteignent le journaliste au bas-ventre. Plusieurs collaborateurs de Calmette entrent en trombe dans le bureau. Ils se précipitent sur leur patron qui gît dans un bain de sang. Dans un souffle, Calmette leur glisse « J'ai fait mon devoir, ce que j'ai fait, je l'ai fait sans haine ». Il est ensuite transporté d'urgence dans une clinique de Neuilly-sur-Seine. Il va mourir après une opération de la dernière chance tentée par les médecins. Henriette Caillaux, quant à elle, n'a pas cherché à s'enfuir. On a appelé la police et la police l'emmène à la prison de Saint-Lazare.
RTL, Jacques Pradel, l'heure du crime.
Décryptage, explication, qui était Joseph Caillaux, quel avait été son parcours politique, pourquoi craignait-il les révélations du Figaro? Les réponses de mon invité Jean Garrigue dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Les scandales de la République, c'est le titre du livre de mon invité Jean Garrigue, professeur d'histoire contemporaine, dont je n'avais lu personnellement que la première édition de ce livre, Les scandales de la République de Panama à Clearstream, mais maintenant une nouvelle édition est parue, donc au Nouveau Monde, avec évidemment le scandale Cahuzac, et d'autres d'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure.
DSK,
vrai.
La nouvelle affaire Tapie, enfin, mais chaque mois finalement, je nourris
vous apporte
saga.
De la nourriture. Oui. Alors, aujourd'hui, à la une de notre émission, on revient sur l'assassinat du directeur du Figaro en 1914 par la femme d'un ministre, donc Joseph Caillaux. Alors maintenant, on compte sur vous pour décrypter tout cela, parce que on parlera du procès plus tard, mais on peut se demander quand même quel est le véritable mobile, que redoutait tant cet homme, parce que est-ce que sa femme a vraiment agi par passion amoureuse et par orgueil, ou est-ce qu'il y avait quand même des raisons plus sérieuses? Ça, vous allez nous le dire, mais d'abord, il faut savoir qui était cet homme, membre important du Parti radical à l'époque.
Ah oui, c'est vraiment une personnalité de tout premier plan. Je l'ai dit tout à l'heure, il a été plusieurs fois ministre. C'est le grand ministre des Finances de la période. C'est le spécialiste des finances. C'est un homme, en plus, qui a une certaine morgue. Enfin, c'est une sorte de dandy qui aime les femmes, qui aime l'argent et qui ne s'en cache pas.
Il a été président du Conseil.
Oui, bien sûr.
Il est allé jusqu'aux plus hautes marches.
Il a été président du Conseil en 1911. À ce titre, d'ailleurs, il a dû gérer une crise très importante avec l'Allemagne, sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure. Ça fait partie aussi des choses un peu mystérieuses.
Parce qu'il y avait eu un accord secret, on peut le dire, entre la France et l'Allemagne, dont il connaissait, lui, le contenu.
Il a négocié, en fait, cet accord, et ça lui sera beaucoup reproché. Donc, c'est un personnage très, très important de la famille radicale, et c'est lui qui est en passe, en 1914, de mener la campagne radicale pour l'élection de mai.
C'est un animal politique, disons-le, et les animaux politiques en 14 comme aujourd'hui sont les mêmes. Ce sont aussi des tueurs. Et lui, il a tué, entre guillemets, évidemment, Louis Barthou, quand même, qui n'était pas n'importe qui.
Non, qui est aussi une des figures de cette vie politique. Non seulement il a tué Louis Barthou, mais il a commis un crise de lèse-majesté qui a été de ne pas soutenir Raymond Poincaré à l'élection présidentielle de 1913. Ouais. Et ça, Raymond Poincaré ne lui pardonne pas.
Donc ça veut dire que Poincaré ne lui pardonne pas, mais la classe politique, d'une certaine manière, le montre du doigt en disant c'est lui qui a abattu le ministère de Barthou, président du Conseil. Et y a un relais dans la presse quand même, parce que le Figaro... C'est pas né de rien, le fait que Gaston Calmette lui-même prenne la plume pour écrire contre Caillaux.
Oui, parce qu'il y a une chose qui déplaît fortement au Figaro, qui est un journal de droite, mais très à droite à cette époque, c'est notamment le rôle de Joseph Caillaux dans le projet d'impôt sur le revenu, qui est un projet, j'allais dire révolutionnaire, en tout cas un projet qui va vers l'égalité sociale et que refuse à tout prix les conservateurs.
Oui, bien sûr, et les rentiers aussi.
Et les rentiers que représente le journal Le Figaro, et c'est ce qui explique cette campagne effrénée.
Alors, il y a dans cette campagne... de la vraie malveillance, il faut dire les choses comme elles sont, puisque on s'attaque à la moralité de Joseph Caillaux. On l'accuse carrément de trafic d'influence et de manipulation financière et même, je crois, de captation d'héritage.
Oui, non, mais les mots sont très très durs. D'abord, il faut dire que Calmette est quasiment l'auteur unique de tous ces articles qui se multiplient. Enfin, pendant 3 mois, il a des dossiers. Qui lui sont gracieusement fournis par les adversaires.
Et des dossiers qui concernent, on va dire, l'action politique de Joseph Caillaux, mais aussi son intimité.
Oui.
Et l'intimité, à l'époque, est encore plus protégée que de nos jours. Le jour, le 10 mars, c'est-à-dire 6 jours avant que Henriette Caillaux n'aille assassiner Calmette, le 10 mars, les lecteurs du Figaro ont pu lire c'est Calmette, mais c'est pas signé. Hein. Les lignes suivantes, je les ai relevées. C'est maintenant l'instant décisif où il ne faut reculer devant aucun procédé, si pénible qu'il soit pour nos habitudes, si réprouvé qu'il soit par nos manières et nos goûts. Ça, c'est un avertissement.
Oui, il veut vraiment la peau, ils veulent la peau de Joseph Caillaux. Ils veulent la peau, je le répète encore, parce qu'il y a une dimension très politique dans tout ça, de celui qui peut mener le parti radical et la gauche à la victoire.
Bien
donc
sûr.
Ça, c'est quelque chose de très important. Et alors, il y a énormément de sujets, finalement, d'attaque, d'angle d'attaque contre Joseph Caillaux, y compris l'intimité, alors sur deux plans, l'intimité de son rapport à l'argent, Dans ce que dit Calmette, ce qu'il écrit, c'est il est tout le temps à la recherche de l'argent. Il ne pense qu'à ça. Il multiplie les malversations, les coups de bourse, les spéculations. Ouais. Ça, c'est l'affairiste type aux yeux de Calmette. Il n'est pas très loin de la vérité, d'ailleurs. Et puis, il y a aussi le côté, alors là, intime de la relation aux femmes de Caillot et de sa liaison avec Henriette.
Alors justement, le 13 mars, on s'approche de la date fatidique. Le 13 mars, il publie le Figaro, des extraits d'une correspondance privée. Alors là, évidemment, je le dis avec le sourire encore aujourd'hui, parce qu'il révèle que Joseph Caillot, qui écrit, je crois, à sa maîtresse, il signe ton Jojo, enfin voilà, Joseph Caillot, le ministre des Finances, c'est le Jojo de la dame, quoi. Bon,
il l'appelait Riri. Enfin,
oui, donc, Riri, voilà. Riri,
c'est mignon.
Henriette, il l'appelait Riri, Bon. Ensuite, quand même, là encore, le patron du Figaro se justifie d'avoir publié ces extraits, puisqu'il écrit « C'est la première fois depuis mes 30 ans de journalisme que je publie une lettre privée, une lettre intime, malgré la volonté de son détenteur, de son propriétaire ou de son auteur, ma dignité en éprouve une vraie souffrance. » Enfin, une souffrance limitée,
Il a fallu se les procurer. On pense qu'il a soudoyé une femme de chambre de Madame Caillot, etc. Oui. Est-ce que c'est la première Madame Caillot qu'il a donnée ? Parce qu'il faut quand même rappeler que pendant un temps, Henriette a été la maîtresse de Joseph Caillot avant d'officialiser leur liaison en 1911. Et donc, tout est là. Et Madame Caillot, Henriette Caillot, ne veut pas qu'on dévoile les lettres que lui écrivait son amant Jojo.
Alors, le lendemain, 14 mars, il y en a vraiment tous les jours. Là, je ne donne pas le détail parce que ça continue, en fait. Il prend d'autres extraits, d'autres lettres intimes de Jojo à Riri. Évidemment, Caillot, lui, redoute qu'un jour on publie intégralement une de ses lettres, quand même, et notamment quand celle qui est devenue sa femme était encore sa maîtresse. À l'époque, ça pouvait choquer.
Oui, mais c'est peut-être pas ce qui choque le plus. Il redoute autre chose de plus politique.
Le 16 mars, au matin, il y a quand même encore une marche dans l'escalade. Il y a un nouveau papier. Alors, je n'ai pas vu ce papier. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui du 16 mars, mais ce que je sais, c'est que ce que Caillot redoute, lui, il redoute que cette publication du 16 mars, n'aille au très grand scandale et ne révèle cet accord secret auquel vous faisiez allusion tout à l'heure.
Un accord secret qui porte sur ses liens avec un escroc qui a été condamné quelques années plus tôt, qui s'appelait Rochette.
Alors, on va parler de ce Rochette dans un instant. Il faut vraiment lui consacrer une partie de cette émission. Ça va vous faire penser peut-être à d'autres et à d'autres époques. À tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et nous retrouvons mon invité, l'historien Jean Garrigue, auteur de ce livre, Les scandales de la République. On focalise aujourd'hui dans cette émission sur le scandale de la publication créé par la publication de papiers à répétition sur Joseph Caillot par le directeur du Figaro, Gaston Calmette. Sa femme, Henriette, a fini par acheter un revolver un jour chez Guestine et Renette pour aller le tuer, pour que ça s'interrompe. Bon, et on est en train de chercher ensemble les explications, les décryptages qui peuvent faire comprendre que, au-delà des lettres personnelles intimes de Jojo à Riri, il y avait des choses certainement plus sérieuses qui se profilaient pour Caillot, et il en avait peur. Et ça ne va pas rater. On va lui reprocher les relations qu'il a avec un personnage dont vous allez, Jean Garrigue, nous parler maintenant, qui s'appelle Rochette, mais on pourrait dire de lui que c'était le Madoff de l'époque.
Exactement. C'est un escroc qui a commencé ses activités en 1902, un aventurier des affaires qui a multiplié les créations d'affaires, de banques, la banque franco-espagnole, l'union franco-belge, tout un tas de sociétés dont il gonflait de manière très fictive les capitaux. En fait, il utilisait les capitaux d'une société pour gonfler les capitaux d'une autre.
Il faisait de la cavalerie,
et à chaque fois, ça se cassait la figure, et c'était les épargnants qui étaient gros gens comme devant.
Et il avait des protections importantes, puisqu'il était l'ami du ministre des Finances.
Alors, Il n'est pas forcément l'ami.
Il était ami avec lui avant, peut-être.
Alors, voilà ce qui se passe. En fait, ce qu'on reproche à Caillaux, c'est que Rochette ait financé un journal qui s'appelait Le Rappel, et donc Caillaux était l'ami. En revanche, on sait aussi que Rochette était protégé par un député qui s'appelait Fernand Rabier, qui était avocat conseil d'une de ses sociétés, par un sénateur. Donc, il avait un certain nombre de protections, ce qui explique qu'il met un certain temps à être sous le coup de la justice, qui s'est quand même passé en 1908. Mais là, Caillaux intervient.
Ah, alors comment est-ce qu'il intervient ? C'est-à-dire qu'il va... la justice, qui n'a pas été très, très violente avec Rochette jusque-là, va vraiment s'occuper de lui. Il est quoi à ce moment-là, Caillaux ? Il est président du Conseil ou pas encore ?
Non, pas encore. Pas encore président du Conseil. On ne sait pas s'il a véritablement agi, mais il est accusé d'avoir agi. Mmh. En fait, il est accusé d'avoir agi, d'avoir différé le procès pour obtenir une prescription des faits, de 3 ans.
Et, ça s'est jamais vu.
À vrai dire, l'intervention ne serait pas de Caillaux lui-même, du président du conseil de l'époque, Moniz, qui s'est couvert en disant c'est Caillaux qui m'a demandé de le faire.
Bien sûr. Et comme il n'y avait pas les écoutes téléphoniques à l'époque, on ne saura jamais.
On ne saura jamais. Ouais. Ce qu'on sait, en revanche, c'est ce qu'a dit le procureur général, et ça va être important. Procureur général, qui s'appelait Fabre, prétend qu'il a été empêché de mener à bien ces investigations, en tout cas retardé. Le procès, d'ailleurs, n'a pas eu lieu dans le délai des 3 ans, ce qui a permis ensuite à Rochette de s'exiler au Mexique. Ouais. Et on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. En tout cas, il y aurait une note du procureur Fabre qui mettrait l'accent sur ces pressions de Caillaux. Et c'est la révélation de cette note qui fait peur à
Elle a eu lieu ou pas, finalement ?
Non, cette note n'a jamais
eu le temps, peut-être.
Il n'a pas eu le temps, mais simplement, il y a cette suspicion qui pèse beaucoup sur Joseph Caillaux, parce qu'en plus, il est très présent dans les milieux d'affaires. Il préside deux sociétés, Crédit Foncier Argentin, Crédit Foncier Égyptien. Je sais qu'il s'est beaucoup enrichi en bourse pendant la durée de ses mandats de ministre et de président du Conseil. Donc, qu'il soit proche de Rochette n'est pas totalement absurde.
Est-ce qu'on peut prendre une petite minute pour parler d'Henriette ? Mais une petite minute vraiment pour que vous nous la situiez, parce que est-ce qu'elle devient sa maîtresse par intérêt, ou est-ce que c'est de l'amour ? Parce qu'on a l'impression que, et il y aura le procès plus tard, où elle dit, mais c'est l'amour de ma vie, quoi.
C'est l'amour de sa vie.
Elle dit vrai, là.
Elle a été mariée une première fois, elle a eu 2 enfants avec Léo Clarety, qui était publiciste, journaliste, écrivain. Et puis elle est tombée amoureuse de Caillaux, qui est un homme à femme, qui a beaucoup de succès avec les femmes. Ils ont été amants pendant quelques années, et puis ils sont finis par se marier en 1911. C'est véritablement pour elle. Alors, c'est une femme de 40 ans en 1914, une jolie femme très élégante, une beauté de l'époque, un peu plantureuse. Et Caillaux, c'est l'homme de sa vie. Et
question brutale, Jean Garry, qui a fauché les lettres ? Est-ce que vous avez une idée de ça ? Parce que pour faire ce genre de publication, il fallait bien que...
On n'a pas de certitude. Alors, il y a des lettres qui ont pu être divulguées par la première femme de Caillaux. Et d'autres...
Dépit amoureux, donc.
Voilà, dépit amoureux. Et on soupçonne aussi éventuellement une femme de chambre. On n'a jamais su très bien qui était...
Comment ces lettres étaient arrivées en possession de Gaston
Carmet.
Le corbeau. Alors, on va faire une pause dans l'émission. On va se retrouver dans un petit instant. Et on va continuer à parler des raisons qui font que peut-être Joseph Caillaux, au-delà de l'affaire de ce Madoff de l'époque, avait vraiment peur d'une révélation et là qui touche de très près aux relations entre la France et l'Allemagne dans un moment de l'histoire des deux pays qui est évidemment extrêmement nerveux, puisque d'ailleurs il va y avoir le premier conflit mondial très vite.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Les scandales de la politique, c'est un livre de Jean Garrigue, mon invité, historien contemporain. Ça se trouve en édition de poche, aux éditions Nouveau Monde. Et le livre a eu d'abord un tel succès qu'il a été réédité et augmenté, comme on dit dans l'édition. Et vous nous disiez tout à l'heure que, en fait, vous n'avez eu que l'embarras du choix pour ajouter des chapitres. Alors là, on est dans l'affaire Caillaud, l'assassinat du directeur du Figaro par cette femme de ministre, ministre qui est traînée dans la boue pendant des semaines, tous les jours dans le Figaro. Moi, je fais une fixation absolument incompréhensible sur cette histoire d'accord secret entre la France et l'Allemagne qui avait été négociée par Caillaud 2 ans plus tôt. Hein.
En 1911, 3 ans plus tôt.
3 ans plus tôt. Bah, non, mais c'est vous l'historien. Hein,
donc... Non, mais vous avez raison de faire une fixette là-dessus parce que c'est quand même une des raisons essentielle de la campagne qui est menée contre lui. Parce que Maurice Barrès, l'un des apôtres du nationalisme, l'appelle l'Allemand. C'est-à-dire qu'il est considéré comme un traître, comme quelqu'un qui négocie depuis 1911 avec les Allemands, que toute la France est cocardière et veut la guerre, ou en tout cas regarde la guerre d'un œil favorable. Ouais. Lui, au contraire, a négocié. Il a négocié au moment de ce qu'on appelle l'affaire d'Agadir au Maroc, lorsque Agadir, le port d'Agadir, qui était français, sous domination française, était menacé plus ou moins par la flotte allemande, par une canonnière. Mmh. Et lui a essayé de résoudre ce problème en négociant secrètement avec un personnage plus ou moins louche qui s'appelait Lanken, un Allemand, qui servait un peu d'intermédiaire avec les autorités allemandes.
Et un accord, donc tu retires ta canonnière et...
En échange, la France a cédé une partie de ses colonies du Congo à l'Allemagne. Et ça a été beaucoup reproché, évidemment, à Caillaud.
Alors, il y a autre chose. Il y a ce que vous racontiez tout à l'heure sur Rochette. C'est peut-être ça le vrai scandale, quand même, parce que un procès qui est retardé par les plus hautes autorités de l'État, ça peut être vraiment terrible. Et vous me disiez hors micro qu'il y avait eu une commission d'enquête parlementaire. Jaurès avait démissionné.
Jaurès a démissionné parce qu'il n'obtenait pas la réponse à ces questions.
Et Caillaud pouvait en tout cas se dire, pourvu que le Figaro n'ait pas d'autres révélations au-delà de... Parce qu'ils avaient réussi à bloquer la commission d'enquête, pour être clair.
Oui, c'est ça. Bon, c'est ça. Voilà. En fait.
Donc pourvu qu'il ne se passe rien. Alors, qu'est-ce qu'il fait, notre ami Caillaud? Il va voir le président de la Cour d'assises pour lui demander dans quelle mesure il peut faire interdire la publication d'informations le concernant ou de lettres personnelles. Le président de la Cour d'assises lui dit qu'il n'y a aucune loi pour le protéger ou pour faire interdire la publication des lettres. Et il prend un rendez-vous urgent avec le président de la République. Et ce rendez-vous, il a lieu à 10h du matin, le jour, le 16 mars.
Eh oui. Alors que le couple Caillaud doit le soir dîner à l'ambassade d'Italie, qu'Henriette s'est préparée, commence à se pomponner pour ce grand rendez-vous. Là, Caillaud revient de chez Poincaré affolé en disant « Bon, là, on a lâché les chiens. »
Voilà, et c'est là où il dit « S'il continue, je vais lui casser la gueule. » Et elle se dit « Moi, je vais le tuer. » Voilà, c'est exactement le scénario qu'on a reconstitué. Alors, maintenant, on va parler du procès. Parce que à l'époque, les procès allaient assez vite, puisque le procès s'ouvre le 21 juillet. En effet, remonte au 16 mars. Et Caillaud est présent. Alors là, il faut dire, il ne se cache pas.
Il fait front. Et d'ailleurs, Henriette aussi.
Elle est quand même accusée.
Non, mais attention, elle ne fait pas profil bas, en réalité. On la voit plutôt souriante avec les journalistes. Elle s'est pomponnée pour le procès. Enfin, ce n'est pas une femme éplorée. Elle essaye de justifier son acte par cette campagne odieuse et par l'amour qu'elle porte à Joseph.
Et ce que souhaite Caillaud, c'est que le procès de sa femme ne devienne pas son procès, en fait, quand même.
Exactement.
C'est ça la vraie inquiétude.
Exactement. Et là, il a la chance d'avoir un grand avocat qui s'occupe d'Henriette Caillaud, qui est Fernand Laborie, et qui va vraiment porter le procès sur le terrain de l'intime, sur le terrain de la passion bafouée et de cette femme qui va, pour lui, avoir une sorte de réflexe passionnel. contre Calmette.
Alors, à propos de réflexes et de réflexes politiques, Caillaux a eu un magnifique réflexe politique quand même, parce que on a quand même dans les débats abordé ce qu'on lui reprochait, mais il y avait le fameux accord secret. Or, le fameux accord secret, il l'a officiellement communiqué au président de la République, et à partir de là, c'est protégé par le secret défense.
Voilà.
Et on ne peut donc pas l'évoquer
déjà
au cours de... C'est pas mal quand même, non ?
C'est pas mal.
Vous voyez,
c'est
comme finalement, rien ne se perd, rien de secret. Bon. Alors, il y a également l'ex-épouse qui s'appelait Berthe Guédon, qui est convoquée à la barre. Hein,
oui,
l'ex-épouse de Caillaux.
Et qui va charger à la fois Caillaux et Henriette. Mais il y a aussi, il faut quand même le rappeler, la manière dont Caillaux a quand même préparé le procès. Le garde des Sceaux est l'un de ses amis, Bienvenue Martin. Le président de la Cour est lui aussi un proche du parti radical. Et les jurés ont été sélectionnés. Mmh. On a trouvé l'urne contenant les noms des jurés ouverte. On ne sait pas très bien. Il paraît qu'elle serait tombée dans les couloirs, dans les escaliers du palais de justice. Et de ce fait, on sait que la majorité des jurés sont des sympathisants du parti radical.
Bien sûr. Et puis alors, mais involontairement, Berthe Guédon, elle apporte du moulin à la défense à ce que souhaitent en tout cas Caillaux et Henriette. C'est qu'elle dit oui, j'ai volé des lettres. Je voulais déconsidérer ma rivale. Ça commence à devenir une espèce de lavage de linge sale, etc. Si on est dans une époque de pudeur, quand même.
Exactement.
Et le président tranche et dit, bon, maintenant, ça suffit. Le procès est terminé.
Terminé. Voilà.
Le jury va délibérer.
Et Henriette Caillaux apparaît comme une sorte de victime, finalement, de cette vindicte de la première femme.
Voilà. Alors, donc, le procès a basculé, on peut le dire, avec le témoignage de l'ex-épouse. Et les lettres intimes n'ont pas été lu dans le prétoire.
Non, parce qu'on est
par
dans
décence,
une puritaine.
Monsieur. Ah ben voilà. Bon, alors il y a quatre jours de procès, hein, en fait. Alors c'est très intéressant parce que le choix du jury est quand même très restreint. Soit c'est l'acquittement.
Ah oui, oui.
Soit c'est une peine de 5 ans pour un meurtre, quand même. Voilà.
Mais ce qui compte, c'est que le crime ne soit pas prémédité. C'est fondamental. Et c'est ce que reconnaît le jury, enfin un jury très sympathisant envers les Caillaux.
Et c'est comme ça donc qu'elle est acquittée, en fait.
Et qu'elle est acquittée. Alors, sachant aussi que la salle avait été, comme on dit, faite par les amis de Caillaux, par un député proche de Caillaux.
On applaudit. Henriette s'évanouit.
Elle s'évanouit.
Voilà, oui.
Mais attention, parce qu'il y a aussi toute une partie de la salle qui sont des militants pour beaucoup d'actions françaises et qui crient « Assassin !» Caillaux assassin, et tout le monde va partir dans les rues de Paris. Il va y avoir pendant des heures là une effervescence anti-Caillaux qui montre bien à quel point on est dans un climat extrêmement tendu.
Et la Première Guerre mondiale va commencer quelques jours plus tard. On va y revenir ensemble parce que ça sera intéressant de savoir que sont devenus tous les protagonistes de cette histoire. C'est ce que nous allons vous dire dans un instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et c'est la dernière partie de cette heure du crime consacrée à cet énorme fait divers qui a précédé de quelques semaines la Première Guerre mondiale.
De quelques jours.
De quelques jours pour le procès, de quelques semaines pour l'assassinat en mars, le procès en juillet, le verdict d'acquittement. On y revient d'ailleurs tout de suite, si vous le voulez bien, parce que en fait, le jury, la cour, ils ont suivi ce qu'avait plaidé l'avocat d'Henriette Caillaux. Il avait dit, elle a tué par amour et par amour propre. Et elle est acquittée.
Elle est acquittée. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, ça provoque beaucoup de joie du côté des partisans de Caillaux et beaucoup de rancœur de la part de ses adversaires. Mais ce qui est surtout frappant, c'est qu'on est quand même en pleine crise des Balkans. Le 28 juillet, le jour du procès, les grands journaux parisiens titrent sur 4 ou 5 colonnes sur l'acquittement. Et puis alors, il y a un petit entrefilé à côté qui stipule, qui montre que l'Autriche vient de déclarer la guerre à la Serbie.
C'est qui fait basculer tout le monde dans un conflit mondial.
C'est l'enchaînement, parce que les Russes vont défendre les Serbes, les Allemands vont défendre les Autrichiens, et les Français vont attaquer les Allemands, etc. etc. Et c'est la guerre mondiale.
Ouais. Alors, en fait... La guerre, donc, est une période qui va bouleverser la vie de beaucoup d'autres gens que nos protagonistes. Mais que deviennent-ils tout de suite, déjà pendant la guerre, Joseph Caillaux et sa femme Henriette?
La guerre fait basculer le destin de Joseph Caillaux. Et comment? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'Allemand. C'est-à-dire que c'est un homme qui pense qu'il faut négocier diplomatiquement avec les Allemands. Et c'est ce qu'il va faire aussi pendant la guerre. Il va continuer sur cette lancée.
C'est possible.
Il a essayé de le faire.
Dans cette ambiance, on voyait des Allemands partout, on parlait de la cinquième colonne,
notamment
on voyait des espions.
À partir de 1917, il y a des négociations avec les Autrichiens, les Italiens, le pape qui s'en mêle. Ouais. Et Caillaux est au cœur de ces négociations. Ouais. Il se fait un ennemi juré. C'était déjà le cas de Georges Clemenceau. Et là, Georges Clemenceau va tout faire pour que Clemenceau passe, pour que Joseph Caillaux, pardon, passe en justice comme un traître. Et il obtient la levée de l'immunité parlementaire de Joseph Caillaux en 1918. Et de fil en aiguille, Joseph Caillaux va passer devant un jury, le Sénat, composé comme une haute cour de justice. Ouais. Et il va être condamné en 1920.
Alors, il sera condamné. Anti-française
pour... Alors, il sera condamné pour correspondance avec l'ennemi. Parce qu'en fait, on n'a rien trouvé de trahison.
Il négociait pas, Jean Garrigue, il négociait pas de sa propre autorité. Ça veut dire qu'il représentait à l'époque, non?
Il négociait, il essayait de trouver une solution diplomatique
tout
au nom de son importance politique. Parce
c'est
que
ça,
c'était
mais il n'était pas
radicale.
Donc
pas du tout.
L'émanation d'un groupe
pas
de
du tout, pas
plus
du
important.
Tout. Non, c'est une initiative, d'ailleurs très risquée, et au fond, qui traduit une véritable cohérence de sa pensée politique, mais qui lui a coûté très très cher, puisque donc en 1920, il est condamné. Très vite, il sera amnistié de cette condamnation et il revient dans la vie politique à partir de 1925.
Le rebond,
il est amnistié par le cartel des gauches, les radicaux du cartel des gauches, et il redevient un personnage majeur de la vie politique de l'entre-deux-guerres, président de la commission des finances du Sénat, et au moment du Front populaire, c'est même lui qui, on peut dire, est l'un des tombeurs du gouvernement de Léon Blum. En tant que président de la commission des finances du Sénat, il va refuser d'aller plus loin dans les réformes et va être là jouer un rôle majeur à nouveau. Donc on est plus d'une décennie après ce qui s'était passé en 14.
Ouais. Et alors Henriette, elle,
Henriette l'a connu une vie plus douce. Ouais. Finalement, elle est une fois acquittée, elle a passé une thèse d'histoire de l'art sur un sculpteur célèbre qui s'appelait Jules Dalou, et puis elle a coulé des jours heureux avec Jojo.
Elle ne s'est jamais réexprimée au-delà de son procès sur cet assassinat.
Non, il n'y a pas eu d'autres confessions après ce grand barnum du procès.
Ouais. Et alors, est-ce que, comment dire, la famille de Gaston Calmette devait l'avoir vraiment, passé d'expression très très mauvaise, parce que quand même il y a un homme qui est mort quand même, quoi.
Oui, mais comme la famille de Calmette, elle a eu la satisfaction de voir Caillaux condamné en 1920, et Caillaux était une sorte d'ennemi public numéro un, il faut voir, au sortir de la guerre, ça fait partie de ces hommes qui incarnent la traîtrise, la trahison, le défaitisme, donc il était quand même vilipendé, puis après il s'est remis dans le circuit.
Il nous reste très peu de temps, il nous reste à peine 2 minutes avant la fin de l'émission, mais je pense à quelque chose, donc j'ai l'habitude d'exprimer ce que je pense. Il y a ce procès d'acquittement juste avant la guerre de 14. Il va y avoir un autre procès où quelqu'un va être acquitté après avoir tué quelqu'un après la guerre de 14. C'est l'assassin de Jaurès.
Ah oui, Raoul Villain.
Et là, c'est considéré comme un crime de passion politique.
Ben oui, c'est là aussi, on a quand même là deux exemples qui encadrent la Première Guerre mondiale.
C'est absolument incroyable.
De verdicts qui nous apparaissent avec le recul du temps quand même très surprenants.
Je vous remercie beaucoup, Jean Garrigue, et je renvoie à tous ceux qui vous ont écouté aujourd'hui à ce livre, parce que évidemment, les scandales, il y en a eu, comme on le disait au début de l'émission, à toutes les époques, et ceux qui liront les scandales de la République pourront voir finalement, c'est un peu la face cachée de la vie politique qui s'exprime avec ces acteurs qui sont souvent très très connus. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Voici ce que le livre est paru aux éditions. éditions du Nouveau Monde, donc en livre de poche. L'émission est maintenant terminée. Dans quelques instants, Flavie Flamand, puis les informations. Et nous, eh bien, nous nous retrouvons après le week-end, donc lundi prochain. Bon week-end.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.